France Inter, 8h. Et c'est le journal de Marc Fauvel. Bonjour Marc.
Bonjour à tous. À la une ce matin. Et nous, on fait quoi ? La France dévoile aujourd'hui sa stratégie pour sauver la biodiversité. Un tiers des espèces menacées en France. Et c'est un ministre, lui-même menacé de disparition du gouvernement, Nicolas Hulot, qui défend le texte après ses états d'âme de ces derniers jours. La mort sur un brancard, au milieu des urgences, coup sur coup, deux personnes âgées sont décédées à l'hôpital de Tours. Elles sont restées des heures dans une salle d'attente bondée. La grève à la SNCF, 19e jour aujourd'hui, c'est la justice qui va arbitrer le bras de fer entre direction et syndicats sur la question du paiement des jours des grèves. À 8h20, un an au gouvernement et il fait déjà son propre bilan. Vous recevez ce matin, Nicolas, le ministre de l'Éducation nationale.
Jean-Michel Blanquer qui publie effectivement chez Odile Jacob « Construisons ensemble l'école de la confiance » intervenez au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, Jérusalem sous tension avant la première grande prière du Ramadan. Vache maigre pour les producteurs de lait, nous en buvons de moins en moins. Le festival de Cannes, à la veille du palmarès, Eva Bétan nous attend sur place. Et puis 23, v'là les Bleus, Didier Deschamps dévoile sa liste pour la Coupe du Monde. Ce sera avec Fekir et Tovin, mais sans Dimitri Payet, blessé, qui dit adieu à la Russie. Des moineaux qui disparaissent, des abeilles qui meurent par millions, des espèces entières menacées d'extinction. Faudra-t-il un jour pousser la porte d'un musée pour montrer à nos enfants à quoi ressemblait la planète Terre et ceux qui y vivaient ? Voici la dernière étude publiée dans la revue Science. 115 000 espèces animales et végétales ont été observées pour répondre à la question suivante. À partir de quel seuil de réchauffement le vivant est-il menacé ? Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Alors on se demande souvent si un demi degré de plus ou de moins, ça change vraiment les choses. Ce matin, on a la réponse.
Eh ben oui, plus la température augmente et plus les zones d'habitat de la flore et de la faune rétrécissent comme peau de chagrin. Les chercheurs britanniques et australiens ont pris en compte les aires de répartition de dizaines de milliers de mammifères, de plantes et surtout d'insectes. Ils ont mouliné leur modèle en fonction des différents scénarios climatiques. Le résultat est sans appel. Si les températures continuent de s'emballer sur la planète, plus de 4 degrés et demi à la fin du siècle, eh bien le territoire naturel des plantes et des animaux va fondre comme un iceberg. De moitié pour la grande majorité des insectes et de 40% des mammifères. À l'inverse, l'étude montre que chaque demi-degré en moins a son importance, surtout quand on est un coléoptère, car le risque est alors divisé de moitié pour les plantes et les vertébrés et par 3 pour les insectes, ces petites bêtes qui piquent, qui grattent, qui font peur parfois et qui sont pourtant des super-héros de l'environnement. Les insectes pollinisent, régénèrent les sols et servent de nourriture aux oiseaux. Alors oui, certaines espèces vont s'adapter au réchauffement, les papillons, les oiseaux peuvent migrer. D'autres vont carrément en profiter pour coloniser de nouvelles frontières, comme le moustique tigre dont on s'est aperçu qu'il prenait la voiture. Mais pensez aux plantes, aux escargots, aux grenouilles. Plus difficile à déplacer, cette étude apporte de nouveaux arguments encore pour dire qu'il faut respecter les accords de Paris.
Merci Sandy Dauphin. La biodiversité, franchement, tout le monde s'en fiche, avait lancé Nicolas Hulot il y a quelques mois à l'Assemblée dans un coup de gueule dont il a le secret. Aujourd'hui, c'est un appel au sursaut qu'il va lancer en présentant les grandes lignes de son plan pour la biodiversité. Mais sera-t-il encore là pour le défendre, ce plan, cet été, au moment des derniers arbitrages, lui qui vient une nouvelle fois de faire part de ses doutes sur son utilité ? Évidemment, chacun de ses mots, chacun de ses déplacement est désormais scruté. Dernier en date hier soir dans le Var où il participait à l'opération VRP du gouvernement. Fini le spleen, officiellement Laurence Perron, Nicolas Hulot a surtout joué les bons élèves.
Pour un ministre en plein doute existentiel, le sud de la France n'est pas exactement un cadeau pour aller défendre l'action d'un gouvernement ni de droite ni de gauche.
On met pas des fraises dans le pot au feu. Quand on est de droite, on est de droite et quand on est de gauche, on est de gauche.
Et sans surprise, c'est un comité d'accueil de cheminots en grève. Sur l'estrade du gymnase, Nicolas Hulot défend la réforme.
Il faut remettre l'entreprise à niveau. Ou alors trouvez-moi une solution, on augmente les impôts de tous les Français. Enfin, il y a un moment, il faut être raisonnable.
Le syndicaliste qui l'a interpellé quitte la réunion en colère.
Ce qui arrive aux cheminots, c'est pas son problème. Qu'on soit dans la merde jusqu'au cou parce qu'on gagne plus une thune, c'est pas son problème. Il traite les cheminots comme le reste de la société. La seule chose qui l'intéresse, c'est de faire du pognon avec ses amis qui sont blindés de thunes.
Il n'entendra pas l'écologiste affirmer aussi.
Si l'économie repart, on pourra bien redistribuer la richesse et le faire d'une manière équitable, parce qu'en finale, l'objectif, c'est l'humain.
À la sortie, c'est un guet-apens de journaliste auquel il dément avoir sous-entendu une possible démission à l'été.
Je m'interroge, j'ai des doutes, mais comme tout le monde. Le pire, c'est les gens qui sont bardés de certitudes, qui sont contents de soi, qui sont satisfaits de ce qu'ils font.
Un ministre qui doute, mais qui ne rompt pas, en attendant de faire le point aux prochaines vacances, pour savoir s'il redevient un simple monsieur Hulot. Aux Arcs-sur-Argence, Laurence Perron, France Inter.
Il est 8h05. Est-ce un hasard malheureux, Marc, ou alors le signe que décidément quelque chose cloche dans notre système de soins?
Deux personnes âgées sont mortes ces derniers jours à l'hôpital de Tours. Elles souffraient de pathologies graves. Mais ce qu'on retient surtout, c'est qu'elles sont mortes non pas dans un lit, mais sur des brancards au milieu des autres malades, dans la salle d'attente des urgences où elles patientaient depuis des heures. Johan Nicolas.
C'est un phénomène exceptionnel. C'est ainsi que le professeur Pierre-François Dequin, responsable des urgences, évoque ces deux décès de patientes, des personnes de près de 90 ans en fin de vie en raison d'une pathologie assez grave. Ces deux patientes sont mortes dans une salle d'attente bondée. Il y avait entre 12 et 15 brancards ce soir-là, alors que la salle d'attente peut en accueillir 6. La première patiente est restée plus de 6 heures sur le brancard, la deuxième plus de 4 heures. Les équipes médicales sont meurtries, choquées, blessées par ces décès indignes, ce que partage le chef des urgences. Le personnel aurait voulu accompagner dignement ces patientes, mais le professeur Dequin explique que ce soir-là, il y avait malheureusement des cas plus graves à gérer. Pour être totalement transparent, les familles des deux personnes âgées décédées ont été prévenues par le médecin de garde, puis reçues par le chef de service et la direction. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'un événement exceptionnel de ce type arrive. Un autre décès dans les mêmes circonstances est arrivé en 2009, selon le professeur Dequin, qui reconnaît une réelle et constante saturation des urgences.
Johan Nicolas, France Bleu Touraine, une première mise en examen 6 jours après l'attaque au couteau qui a fait un mort à Paris. Un ami du terroriste Ramzat Azimov a été présenté au juge hier soir après sa garde à vue. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes et est placé en détention provisoire. Dans cette même enquête, 2 femmes ont été arrêtées hier. Personne n'a oublié son nom ni sa condamnation à tort. Marc Machin, qui avait passé 6 ans en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, a été placé en garde à vue ces derniers jours, soupçonné d'avoir commis un viol le mois dernier à Paris. Depuis sa remise en liberté en 2012, Marc Machin a multiplié les condamnations pour vol, violence et agression sexuelle. La grève a repris à la SNCF, 10e séquence et 19e jour aujourd'hui. Question trafic, ça ne s'améliore qu'au compte-gouttes. Comptez environ 40% des TER et des intercités et la moitié des TGV et des RER. Aujourd'hui, la bataille entre syndicats et direction va se déplacer au tribunal, celui de Bobigny en l'occurrence, qui va trancher la question des retenues sur salaire que la direction impose aux grévistes. En clair, ils ne sont pas payés durant leurs jours de repos compris entre 2 périodes de grève, atteinte inadmissible au droit de grève pour les syndicats qui ont donc saisi la justice. Maxime Deps.
Au cœur du litige, la lecture différente que se font de la grève les syndicats et l'entreprise. La SNCF estime que le mode de contestation inédit choisi par la CGT, l'UNSA et la CFDT doit être considéré comme un mouvement unique. Pour cause, il n'a qu'un seul objet, la réforme ferroviaire. C'est là que les syndicats ne sont pas d'accord. Pour Maître Mesbahi, qui représente l'UNSA, la grève est discontinue et chaque séquence de grève de 2 jours dispose de son propre préavis, ce qui au final a clairement son importance.
En principe, lorsque les absences pour grève sont de 48 heures, on ne fait aucune retenue sur les jours de congé.
Et voilà pourquoi ce détail est important. Si sur des grèves courtes, la SNCF n'a pas les moyens de toucher au porte-monnaie de ce côté-là, la donne est différente sur une plus longue durée. Pour l'avocate de l'UNSA, l'entreprise se livre à un processus de dissuasion très limite avec les cheminots.
La SNCF leur fait croire que les retenues qu'elle va pratiquer sont des retenues qui sont licites, alors que de notre point de vue, ce n'est pas le cas.
Alors qui des dirigeants de la SNCF ou des syndicats sortiront vainqueurs du tribunal aujourd'hui? Réponse au plus tard cet après-midi.
Encore des évacuations en cours dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Elles ont repris ce matin. Hier, les gendarmes ont détruit 5 squats jugés illégaux. 5 autres pourraient être rasés aujourd'hui. Jusqu'où grimpera-t-il? Le prix du pétrole a franchi un nouveau palier à la hausse cette nuit à Wall Street, porté par les inquiétudes sur la situation en Iran et au Venezuela. 80 $ le baril, c'est son plus haut niveau depuis 4 ans. Et puis c'est le moment de vous en parler, si vous en êtes au petit déjeuner. Le lait n'a plus la cote, nous en buvons encore 49 litres par an, c'est une moyenne, mais la consommation baisse chaque année, 2 litres de moins par an, au profit de nouveaux laits bio, sans lactose ou équitables. Manuel Ruffez.
Le petit déjeuner représente à lui seul les 3/4 de notre consommation de lait. Seulement les traditions se perdent et ce moment familial et convivial n'est plus qu'il était, les volumes sont en baisse, mais à ce lait de consommation classique se substituent des laits à forte valeur ajoutée qui compensent les pertes. Yves Legros, le président de Saint-Dilais, l'organisation qui regroupe les fabricants de lait de consommation.
L'offre la plus importante, c'est celle du bio. Ensuite, il y a des laits qui favorisent le bien-être animal, qui sont sans OGM, des laits qui favorisent aussi une rémunération correcte et équitable des éleveurs de lait. Le segment des délactosés est aussi en forte progression. Donc tous ces segments-là représentent environ maintenant 24% de l'ensemble en termes de volume. Et ils permettent presque de compenser en termes de valeur la baisse de volume à cause de la déconsommation.
Le lait bio, surtout, connaît une croissance à deux chiffres. Et l'année dernière, il en a même manqué pour faire face à la demande. Emmanuel Vasnex, le patron de la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel.
Le début d'année 2017 a été très très compliqué. Comme on est sur un marché qui est en forte croissance en termes d'évolution, bah c'est effectivement problématique de joindre la production avec derrière la consommation, sachant que les contraintes sur les produits bio sont effectivement fortes, à la fois en termes de timing, mais également en termes de contraintes de production.
Le lait bio, c'est aujourd'hui 10% des volumes de la filière.
Il est 8h10, un ramadan sous haute tension à Jérusalem.
Des centaines de milliers de fidèles musulmans attendus aujourd'hui sur l'esplanade des mosquées pour la première grande prière du ramadan. Premier rendez-vous également après le bain de sang du début de semaine. Israël a fait un geste en acceptant que les Palestiniens de Cisjordanie puissent sous condition se rendre à Jérusalem, mais pas ceux de Gaza. Reportage à Jérusalem-Est dans la partie arabe de la ville de notre envoyé spécial Sébastien Sabiron.
À l'entrée de la vieille ville, Tamer prépare des kataïef, des crêpes de ramadan. Selon le jeune homme, ce ramadan ne sera pas comme les autres.
Ce qui se passe en ce moment entre Palestiniens et Israéliens crée une certaine confusion ici dans la vieille ville. C'est le premier jour, je ne sais pas ce qui va se passer. Je souhaite que ce ramadan apporte la paix à tout le monde.
Cet après-midi, Rafika ira prier à la mosquée Al-Aqsa, même si, dit-elle, le cœur n'y est pas.
On est vraiment triste de la situation à Gaza. On pleure toute la journée, mais nous continuerons toujours à vivre, à faire le ramadan. Nous devons défendre Al-Aqsa, prier tous les jours sur Al-Aqsa.
Troisième lieu saint de l'islam, vénéré aussi par les juifs qui ont le droit de s'y rendre, mais pas d'y prier, l'esplanade des mosquées cristallise les tensions. Un dernier symbole à défendre pour des Palestiniens désespérés, estime Moussa Kous. Son association accompagne des jeunes Palestiniens défavorisés.
On considère que c'est notre dernière citadelle, d'autant plus depuis que Trump a transféré son ambassade à Jérusalem. Si l'on perd le contrôle de cette citadelle, de la mosquée Al-Aqsa, on sera éliminé, il n'y aura plus d'espoir. La plupart des jeunes de la vieille ville sont au chômage, ils sont désespérés, ils n'ont plus rien à perdre. Donc si Al-Aqsa est menacée, ils la protégeront avec leur sang.
L'esplanade sera fermée aux non-musulmans aujourd'hui. 3000 policiers en armes seront déployés dans la vieille ville. Jérusalem, Jérémy Thuil, Sébastien Sabiron, France Inter.
Aux États-Unis, c'est une femme qui, pour la première fois, va diriger la CIA, Gina Haspel, 61 ans, dont plus de la moitié passée au sein de l'agence. Elle a reçu cette nuit le feu vert du Sénat, femme de l'ombre également. Elle dirigeait en 2002 une prison secrète de la CIA en Thaïlande, où la torture était régulièrement pratiquée. En Italie, cette fois, c'est fait. Les deux grands partis populistes vainqueurs des dernières élections législatives ont réussi à s'entendre. Mouvement 5 étoiles d'un côté, Ligue de l'autre. Contrat de mariage signé pour gouverner le pays, avec déjà une mesure choc, l'expulsion annoncée d'un demi-million de clandestins.
Et bientôt le clap de fin à Cannes.
Dernière journée de projection aujourd'hui avant le palmarès demain. Bonjour Eva Bétan.
Bonjour.
Alors il reste deux films à découvrir aujourd'hui, mais on a le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de favoris cette année pour la Palme d'Or.
Oui, c'est vrai. Alors n'oublions pas que dans les deux films, il y a Nuri Bilge Ceylan, grand cinéaste turc qui a déjà eu une Palme d'Or. Mais il y a, je dirais plutôt une poignée de films. Il y a une cinéaste qui a bousculé le jeu hier, c'est Nadine Labaki. Accueil formidable à la projection, des minutes et des minutes d'applaudissements. C'est un film très fort sur les gosses des rues de Beyrouth qu'elle a tourné avec des gens qui vivent dans ces situations. Une autre femme à noter, l'italienne Alice Rohrwacher, elle aussi, elle parle des invisibles de la société, mais d'une autre manière. Ces deux femmes qui pourraient se retrouver au palmarès, j'ai envie de dire, pour la qualité de leur film, et pas parce qu'elles sont des femmes. Un film féministe et beau, celui de Jafar Panahi. C'est le cinéaste qui n'a pas pu sortir d'Iran. Dans le côté politique, il y a aussi Kirill Serebrennikov. Je dis politique au sens de la situation des cinéastes, pas du contenu des films qui ne le sont pas. Son film Leto est un regard très tendre sur la jeunesse, l'amour et la musique. Et Serebrennikov est assigné à résidence, je vous le rappelle, en Russie. Donc ces films-là qui ont un fort pouvoir pourraient être au palmarès. À noter un film qui a beaucoup plu, c'est un film polonais, un film d'amour en noir et blanc qui s'appelle Cold War. Il ne faut pas oublier aussi des grands cinéastes, même s'ils ont déjà fait mieux, c'est quand même très bien. Ne pas oublier aussi que les jurés dans leur pays n'ont pas accès à tous les films. Donc chaque fois que les Dardennes viennent, par exemple, ils redécouvrent les Dardennes. Là, je parle de Jazanke et de Kore-eda qui pourraient se trouver au palmarès.
Côté français, Eva, est-ce qu'on peut espérer des récompenses ?
Écoutez, après un grand blanc, il y avait eu trois palmes d'or coup sur coup dans les années 2000. Palmes d'or, je ne pense pas, mais peuvent se retrouver au palmarès Christophe Honoré, L'amour au temps du sida, brisé parce qu'il montre la colère sociale. Je n'ai pas encore vu le film de Yann Gonzalez, donc je vais aller le voir maintenant. Je ne pense pas du tout que Vahusson ait une chance de se retrouver au palmarès. Il y avait eu un très mauvais accueil pour son film.
On vous laisse, Eva, du coup, hein, si vous avez séance de cinéma. Merci beaucoup, on vous retrouve demain.
J'ai piscine, oui.
C'est mieux que piscine. Cérémonie de clôture à suivre en direct demain sur Inter, 19h-21h. Le palmarès, les réactions, les commentaires avec vous, avec Augustin Trapenard et avec la participation de Laure Adler. Le cinéma, c'est aussi sur la web radio du festival, disponible en page d'accueil sur franceinter.fr avec à 10h, tiens tout à l'heure, une leçon de cinéma signée d'un petit nouveau, un certain John Travolta. Il va sans doute faire carrière. En voilà qui sont déjà dans les valises. Direction la Coupe du Monde, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour la compétition. Tous les tauliers sont là, Pogba, Griezmann, Varane, Giroud. Une surprise, c'est la sélection du milieu de terrain du FC Séville, Steven Zonzi, préféré au Parisien Adrien Rabiot. Et puis un absent, le Marseillais Dimitri Payet, blessé, ne sera pas du voyage.
Sa blessure s'est aggravée après hier et je ne me vois pas partir avec des incertitudes ou des points d'interrogation. Ça change ce qui pouvait être prévu, parce qu'en pleine possession de ses moyens, comme il le démontre depuis deux mois et demi, voilà, c'était un candidat sérieux.
Voilà Didier Deschamps hier soir sur TF1, le premier match des Bleus dans la Coupe du Monde, c'est le 16 juin face à l'Australie. L'homme que vous entendez derrière moi, c'est Bernard Guetta. Enfin, si vous cherchez une idée de cadeau, il y a 67 millions de sélectionneurs, dont Bernard Guetta. Si vous cherchez, Nicolas, une idée de cadeau, j'ai ce qu'il vous faut pour Bernard ou quelqu'un d'autre, l'une des plus grosses perles naturelles jamais découvertes sera mise en vente dans quelques jours. Je vais pas le terminer, le journal. Elle pèse, la perle, 120 grammes, mesure 7 cm, oui. Elle a appartenu à l'impératrice Catherine de Russie, elle vient probablement de la rivière des Perles en Chine où elle se serait formée au XVIIIe siècle. Je n'ose pas, Nicolas, vous donner le prix, mais c'est pour un cadeau de toute façon.
Oui, voilà. Marc Fauvel, merci.